Donc, pour les quelques prochains dimanches, on va parler de la parole de Dieu. Ça sera le sujet, le grand sujet à travers les quelques semaines qui viennent. Parce que la foi se repose sur les Écritures. Ça, c'est le titre de mon message aujourd'hui. La foi se repose sur les Écritures. Donc, l'objet de la foi, sur lequel on regarde pour puiser notre foi, pour connaître ce que nous croyons, c'est les Écritures. Et le point le plus en vue dans les Écritures, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, les Écritures ont un témoignage de moi. Donc, à l'époque de la Réforme, il y avait trois ou quatre petites phrases qu'ils ont utilisées pour résumer la conception, on va dire, réformée du christianisme au lieu de la conception catholique du christianisme. On disait, et peut-être on dit toujours, hein, « sola scriptura », et excusez-moi mon latin, je ne suis pas, je ne connais pas, mais « sola scriptura », qui veut dire que la parole de Dieu est la seule autorité. « Sola gratia », donc qui veut dire que la bonté de Dieu, donc l'amour de Dieu exprimé en Jésus-Christ, est la seule moyenne du salut, donc 100% par grâce, plus rien de nous. Et « sola fide », c'est-à-dire même qu'on ne peut rien ajouter à ce que Jésus a fait sur la croix, si on n'y croit pas, ça n'a aucune validité à mon sujet. Donc, comme en Éphésiens 2, 8, moyennant la foi. Si on n'y croit pas, ça n'a aucune valeur pour la personne. Il faut croire. Donc, sola scriptura, sola gratia et sola fide. On ne pourrait rien ou presque rien connaître de Dieu si Dieu ne se révèle pas. C'est un peu humiliant hein, de savoir ou de penser que nous sommes ignorants de presque tout ce qui concerne Dieu. Il faut que lui, de l'autre côté, vienne vers nous. Amen. Autrement, on n'a que à tâtonner. Peut-être comme ceci ou peut-être comme cela. Et la plupart des gens sont dans ce domaine-là. C'est pour ça qu'il y a plein de philosophies et tout ça. Les gens, ils cherchent un peu. Mais quand on tâtonne, eh bien, on n'a pas l'assurance que les résultats sont corrects. On ne sait pas si ce que j'ai découvert comme vérité est vraiment une vérité vraie. C'est peut-être simplement moi qui ai un bon vouloir que les choses soient comme ça. Par contre, quand Dieu intervient et quand Dieu parle, eh bien, à ce moment-là, tout ce que Dieu dit est vrai. Parce que Dieu est un être qui ne peut mentir. Donc, quand on dit que je crois quelque chose, quand on parle de la foi, cette phrase, la foi, se rapporte sur ce qui est invisible. C'est les choses qu'on ne voit pas, les choses qu'on n'a pas encore touchées. Okay? Donc, Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire qui sont par la suite, hein, on n'espère pas quelque chose qu'on a déjà dans la poche, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, il ne dit pas, au lieu de dire la foi est une ferme assurance, il y en a, par exemple, les Mormons qui croient que la ferme assurance est un réchauffement du cœur. Si vous êtes devenu vraiment Mormon, vous aurez un réchauffement du cœur. Et ce réchauffement de cœur est la ferme assurance des choses que vous souhaitez avoir. OK? Ce n'est pas ça. Et comme dans la confession de foi des assemblées de Dieu, si on parle en langue, c'est la première évidence qu'on est né de nouveau. Eh bien non, il n'y a pas de manifestation quelconque pour nous baser notre foi, et c'est une chose intérieure et invisible. Et il y a plein de monde dans le mouvement charismatique, par exemple, qui compte sur les miracles. S'il y a un miracle, là, je peux avoir l'assurance que je suis croyant. Et non, non plus. C'est la foi que Dieu donne, comme la ferme assurance des choses qu'on espère. Et dans 1 Corinthiens, je pense, chapitre 13, à la fin, il dit les trois choses qui demeurent, c'est la foi, c'est l'espérance et l'amour. Donc la foi, c'est comment on entre en relation avec Dieu, quand on croit en Jésus-Christ. Et l'espérance, c'est la chose qu'on espère. C'est la chose qu'on attend de la part de Dieu en récompense du fait qu'on a cru en Jésus-Christ. Et bien sûr, je vous ai déjà dit, mais l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est la mise en pratique de notre foi dans la façon qu'on a vécu par l'œuvre du Saint-Esprit à travers nous. Donc, c'est Dieu lui-même qui nous donne les seuls fondements certains dans sa parole. Et donc, c'est de lui que nous puisons notre foi à partir, donc, de son livre. Dans ce livre, on va apprendre comment Dieu est et non pas comment on veut que Dieu soit. Comme il y a du monde, il y a des gens qui veulent bien que Dieu ressemble à eux, que Dieu prenne des drogues, que Dieu soit immoral, que Dieu soit un homme un peu plus grand ou une femme, etc. Mais non, Dieu ne se révèle pas comme ça. Il se révèle tel qu'il est dans la parole. Alors, il est vrai que Dieu, il se révèle dans un premier lieu par la création. On dit la nature. Pas besoin d'une pile. À travers la création, à travers ce qu'on peut voir, Dieu attend à ce que toute personne, à travers la planète entière, reconnaît qu'il existe. Dans Romains 1:20, nous lisons « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Donc, en parlant de ceux qui n'y croient pas ou ceux qui ont de mauvaises conceptions de Dieu, ils sont donc inexcusables. On doit, à travers la nature ou la création, voir la puissance de Dieu, voir sa divinité, qu'il existe, voir sa sagesse et son intelligence. Par contre, nous ne pouvons pas voir, en regardant autour de nous, la personne de Dieu. On ne peut pas voir sa volonté, on ne peut pas voir son plan pour l'humanité. Ces choses-là, on ne peut pas observer autour de nous. OK? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir ces choses-là? Pour connaître sa personnalité, sa volonté, ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît, ce qu'il veut, ce qui va se passer, il faut que Dieu nous le dise. Et c'est ça, sa révélation. Je voulais dire aussi, quand on observe autour de nous, donc il y a du monde qui dit que tout est au hasard. Et quand on observe, on ne voit rien qui est au hasard. Tout est organisé, tout est ordre. Sauf si bon, vous voyez un bâtiment qui était détruit par un obus, quelque chose, bon là c'est le désordre. Mais quand on regarde autour de nous, tout est organisé. Donc, on ne va pas arriver en regardant la nature à dire que, tout est au hasard. Non, on va voir que tout est organisé et donc il faut un effort anti-foi pour pouvoir arriver à dire que tout est désorganisé. Donc, après qu'on a regardé la nature, il faut reconnaître que aussi Dieu, il s'est fait connaître par l'intervention dans l'Ancien Testament depuis Adam et Ève, donc Dieu s'est révélé à travers tout le temps. Mais à partir de Moïse, donc il a donné ce qu'on appelle les prophètes. Okay? Les prophètes, quelques-uns n'écrivaient rien, mais d'autres écrivaient donc, les choses. Et donc on a, à travers les siècles de l'Ancien Testament, donc on a l'enregistrement à partir de Moïse de ce que Dieu a fait, et ce que Dieu a dit. Puis par la suite, il y a Jésus-Christ qui est là dans les évangiles, qu'on a plein de paroles de Jésus, etc. Et par la suite, le Saint-Esprit a rappelé aux apôtres ce qu'ils devaient mettre sur écrit ou pas écrit. Donc, quand on parle de l'écrit, on parle de l'inspiration. Donc, Dieu a soufflé pour que le message traverse la personne et la personne inscrivit le message. Et tout ce que Dieu a voulu que soit là, eh bien, c'est écrit. Et aujourd'hui, on a une traduction en français, une traduction en anglais, une traduction en allemand, une traduction dans combien, presque 3000 langues maintenant, au moins en partie. Donc, on parle là de l'inspiration. Le texte est inspiré. Le texte est la parole de Dieu, ou on appelle ça les Écritures. La source de la parole de Dieu est le Saint-Esprit, dont nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » De Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. « Toute écriture, donc en parlant de ça, chaque chose que vous voyez là, est inspirée de Dieu. » Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, nous lisons que ce n'est pas par une volonté d'homme, qu'une prophétie... Oh, excusez-moi, je vais recommencer. 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, quand on prend ce livre entre nos mains, on a le message de Dieu qui a été donné pour le bien de l'humanité. Alors, par quel moyen Dieu a-t-il communiqué avec l'humanité? Eh bien, dans Romains chapitre 3, verset 2, Paul dit que c'est par les Juifs que les oracles de Dieu ont été communiqués. C'est pour cela que les chrétiens et les juifs ont rejeté Mahomet. Il n'était pas juif. Il ne pouvait pas être prophète. Et on a des milliers de charismatiques et de pentecôtistes qui sont des prophètes et pourtant, ils ne sont pas juifs. Ça, c'est curieux au minimum. OK? C'était aux juifs qui étaient confier les oracles de Dieu. Le seul qui n'est pas juif dans ce livre, c'est Luc, qui était compagnon de qui? Il voyageait avec qui, Luc? Paul. Donc, dans le message de Luc et de Acte, donc il parle aux tierces personnes, voilà ce qui s'est passé, et puis à un certain moment, dans les Actes, il dit, et puis nous. Pourquoi? Parce que Luc s'était joint à Paul. Donc la source d'information pour Luc et Actes, c'est l'apôtre Paul qui était là avec Luc à travers tout ça. On a, donc je vais simplement les lire, dans Exode chapitre 17 et verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre. Écris cela dans le livre. C'est Dieu qui lui dit ça. Et plus tard dans Jérémie, chapitre 30, verset 2, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. » Le message vient de Dieu. Je ne sais plus combien de fois que la Bible dit « Et Dieu a dit. » Donc, une personne peut dire, ben non, j'y crois pas. Et pourtant, le livre même dit, c'est Dieu qui a donné telle parole. Et puis, donc, comme j'ai dit, ce message est pour toute l'humanité, n'est-ce pas? Et donc, Dieu ne voulait pas simplement rien dire, et il ne voulait pas communiquer d'une façon non compréhensible, mais il a communiqué pour que les gens puissent comprendre et vivre d'après ce qu'il veut. Donc, la première chose, c'est la foi. Il veut qu'on ait confiance en lui. Abraham a cru à Dieu, cela lui a été imputé pour justice. Après, quand on est croyant, Dieu veut qu'on vit d'après ses consignes. Donc Jésus a dit dans Jean chapitre 17 et verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » Donc quand on parle de la sanctification, donc c'est toute notre vie chrétienne est un processus de se mettre conforme à la volonté de Dieu. Aussi dans Psaume 119 et verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc Dieu éclaire la vie, la façon qu'on devrait vivre à travers de sa parole. Sa parole, comme Jésus a dit, est la vérité. Elle est la vérité. Et par elle, Dieu nous révèle sa personne. Il révèle ses plans, sa volonté, etc., pour que nous puissions être agréables à Dieu. Je vais lire ce qu'on a sur la page web. Je vais laisser ça de part. Donc, à ce sujet, Dieu et sa révélation, sur notre page web sur l'Internet. Notre connaissance de la personne et de la volonté de Dieu commence avec les Écritures, car ce sont les paroles de Dieu, une révélation surnaturelle pour le bien de l'humanité. Chaque mot de l'Ancien et du Nouveau Testament sont inspirés de Dieu, sans erreur dans leur rédaction originale. Elles constituent l'autorité souveraine et finale pour la foi et la vie. La Bible nous enseigne comment bien vivre aujourd'hui et dans l'éternité, étant l'expression du souffle de Dieu qui ne peut mentir. Les Écritures sont vraies dans tout ce qu'elles affirment et doivent être comprises dans leur sens normal, entre guillemets, normal. Elles promeuvent la réussite et la vie et donc contiennent les solutions à nos problèmes si seulement nous nous confions à elle et lui obéissons. Et puis, ça termine, nous n'acceptons aucune prétendue révélation en dehors des 66 livres inspirés. Par exemple, nous n'acceptons pas les tours de garde, nous n'acceptons pas le livre de Mormon, nous n'acceptons pas le Coran, nous n'acceptons pas les déclarations du pape, etc., etc. Nous n'acceptons que ce que Dieu a dit dans ce livre. Donc, quand on comprend ça, on comprend bien que Dieu dit qu'il ne veut pas qu'on rajoute ou soustrait de son livre. Il a donné une communication fiable, parfaite. Donc, Dieu ne veut pas qu'on touche à sa parole pour le transformer, ni changer le texte, ni changer la signification du texte. La révélation de Dieu est parfaite. Et donc, c'est à nous de faire la recherche, faire l'effort pour comprendre et mettre en pratique ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Nous lisons dans Proverbes chapitre 30. Donc là, c'est, vous savez, à la fin de l'Apocalypse, de ne pas retrancher quelque chose, etc. Mais là, on est dans Proverbes chapitre 30, versets 5 et 6. « Toute parole de Dieu est éprouvée. » Donc, ce n'est pas voilà, un travail banal. C'est un livre qui est qui dit éprouvé. Donc, dans une autre fois, il va dire éprouvé comme de l'argent qui est creusé, éprouvé sept fois par l'or. c'est purifié. C'est exactement ce que Dieu voulait. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles. N'ajoute rien à ses paroles de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, il ne faut pas dire les choses que Dieu n'a pas dit. Aussi dans 2 Jean, donc verset 9, 2 Jean 1, 9, c'est un seul chapitre, donc le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Hein? Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Ça, c'est ce qui rajoute les choses et qui transforme, pas dans le texte, mais dans l'enseignement. Il faut que notre doctrine se conforme à la parole. C'est ça que Dieu veut. Et donc, Dieu, il va nourrir notre foi par sa vérité. J'ai déjà lu. Jésus a dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Et donc, on voit aussi dans Romains chapitre 10 et verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si on écoute plein d'autres choses, notre foi va devenir ce que nous entendons. Si on n'a qu'une éducation laïque, eh bien, on va croire l'évolution, parce que c'est ça qu'on écoute. Mais quand on écoute la parole de Dieu, eh bien, Dieu agit dans nos cœurs pour que nous ayons une foi saine. Je voulais lire dans Romains chapitre 15 et au verset 4. Romains chapitre 15, verset 4. Donc, quand Paul a donné cette phrase, donc quand le Saint-Esprit a poussé Paul d'écrire, donc d'inscrire ces mots dans le texte biblique, il parlait de l'Ancien Testament. D'accord? Mais à la fin, quand tout est fini, ça parle aussi du Nouveau Testament. Mais à l'origine, ça concernait l'Ancien Testament. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, la parole de Dieu est donnée pour nous consoler dans la foi, pour qu'on construise notre foi, pour avoir une espérance en Dieu. Les écrits de la Bible nous enseignent tout ce qui est nécessaire pour notre salut éternel et pour notre vie sur la terre. Donc c'est ça qu'il a dit dans 2 Timothée 3:16 qu'on a lu tout à l'heure. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, corriger, instruire dans la justice, etc., pour que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. Et quand il dit toute bonne œuvre, ça veut dire que Dieu veut qu'on ait une vie quotidienne, qui est chrétienne. La parole de Dieu insiste beaucoup sur la pratique quotidienne des croyants. Donc, je vais donner 2 versets. Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Juste en revenant, donc quand vous parlez avec les gens, vous pouvez toujours dire la Bible, mais il y a la Bible de cuisine, la Bible de mécanique, la Bible de ceci, de cela, donc ça veut dire en cette utilisation le point de référence, n'est-ce pas? Mais vous pouvez aussi utiliser la phrase, les Écritures, la parole de Dieu, ok? Dieu a dit, pour que les gens avec qui vous parlez savent que ce n'est pas simplement un livre ancien, mais c'est Dieu qui a donné tel message, tel verset, etc. Okay? Donc, c'est simplement ça aide. Beaucoup avec les musulmans, quand vous dites la Bible, ils sont... Mais quand vous dites la parole de Dieu, ils disent, ah oui, d'accord. Okay? Donc, ça aide pour communiquer, de mettre le point. Le mot la Bible n'est pas dans la Bible. Le mot les Écritures, la parole de Dieu, ce sont des mots qui sont dans la Bible. Jésus a dit dans Jean chapitre 20, verset 30, où Jésus a fait encore, en présence de ces, en fait, ces gens qui parlent, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, mettez-vous dans un contexte de Moyen-Âge. Il n'a pas dit en marchant sur vos genoux, en faisant un pèlerinage, en brûlant les cierges, en faisant des rites religieux, etc. En croyant, vous avez la vie en son nom. Sola fida. Seulement par la foi. En Jean, chapitre 5, on va lire versets 11 à 14. Premier épître, petit livre vers la fin de tout vers la fin de la Bible, 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 11. 1 Jean, chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Il ne l'a pas vendue. C'est une bonne chose, hein, parce que ça devait coûter cher. Hein, si c'était possible de l'acheter, mais non. Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a, donc ce mot a, ça veut dire il possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, Jean continue, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Ce n'est pas les gens religieux, ce n'est pas les gens, entre guillemets, de bien, ce n'est pas les gens riches, ce n'est pas les juifs, ce n'est pas les païens, mais c'est ceux qui croient au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et donc, on a parlé la semaine dernière de la prière. À partir du moment qu'on est courant Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. Donc ici, il dit fils de Dieu. On est enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu, Dieu nous écoute. C'est incroyable. Le Créateur écoute les demandes, les prières de ses enfants. Donc, ma dernière pensée, c'est que la foi ne se repose pas sur nos sentiments. Et pas les sentiments. La foi se repose sur la parole certaine de Dieu. Là, on a une fidélité. C'est Dieu qui promet des choses. Sa parole est vraie. Nous pouvons compter là-dessus. Nos sentiments. Moi, j'aime bien la pizza, mais la pizza, ça me fait mal à l'estomac. Hein? Les sentiments changent. Hein? Et bien, non, Dieu, sa parole ne change pas. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et Paul va dire, dont je suis le premier. Okay? Je vais lire deux versets rapidement. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. C'est une promesse, il faut y croire. Romains chapitre 15, verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc Dieu agit en nous à travers sa parole pour construire notre foi et donc pour bâtir notre vie chrétienne. Donc, on va arrêter là. Je vais changer de sujet pour parler du repas du Seigneur. Donc, Thomas, tu veux monter là pour dire à Sophie qu'on va commencer pour le repas du Seigneur? Oui, oui, mais elle va descendre. Peut-être. Peut-être. Non, non, c'est... pas de problème, donc, je vais parler un peu mieux. Donc, je veux répliquer sur ce que je viens de dire. dans 1 Timothée, chapitre, je pense c'est 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Donc, où Paul a dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc, dans ce verset, Paul se donne un exemple extrême. Un exemple extrême d'une personne qui était sauvée par la grâce de Dieu. Hein? Sola scriptura, sola fide, sola grâce. Il était sauvé par la grâce de Dieu sur la base de aucune œuvre. Paul était un assassin des chrétiens. Il était un persécuteur. Il agissait certainement, sincèrement, et il était sincèrement dans l'erreur. Il était un homme méchant, un homme du mal. Et d'après lui, il est le pire des pécheurs. Pourtant, quand il a placé sa foi en Jésus-Christ, il était né de nouveau. Dieu l'a sauvé. OK? On voit aussi dans Romains chapitre 3, on va regarder dans Romains chapitre 3, versets 28 et verset 30. Romains chapitre 3, versets 28 et 30. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Au verset 30, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Le salut est pareil pour tout le monde. Donc, c'est un mot justifié, ça, c'est un des mots qui parle du salut, donc justifié, sauvé, rendu juste. Ce sont tous des phrases qui parlent, donc Abraham était considéré juste parce qu'il a cru, ok? Et nous, quand on croit en Jésus-Christ, on est justifié. Donc, Dieu, il nous lave de nos péchés, il nous donne la vie éternelle, il nous purifie, il nous rajoute tout ce qui est manquant de notre compte et il nous considère comme saints en Jésus-Christ, comme parfait dans les lieux célestes. Donc, on est attaché à Jésus là-haut et on est parfait. Mais ici-bas, ce n'est pas le cas. Hein? La vie quotidienne, ce n'est pas la même chose. Par la foi, sans les œuvres, il dit, par la foi. Non, les œuvres étaient super importantes pour les Juifs. Et ici, Paul dit, ah non, vous les Juifs, vous n'êtes pas sauvés parce que vous avez quelques mérites plus que les païens. Pour être sauvés, vous êtes au même niveau que les païens. Aussi, donc, Paul a pris, j'ai dit Paul, mais en fait, on parle de Dieu. Le Saint-Esprit a poussé Paul d'écrire la lettre qui était adressée aux chrétiens de la Galatie. OK? Et dans cette lettre, donc, je donne juste quelques versets. Donc, chapitre 2 et verset 16, donc, toute cette épître concerne ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut rajouter au salut pour être vraiment saint devant Dieu? OK? Et la réponse du livre, c'est rien. OK? Donc, dans chapitre 2 et verset 16, nous lisons, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié ou sauvé par les œuvres de la loi. Donc il est très insistant dans cette épître, donc je prends juste quelques versets, que le salut est par la foi plus rien. Plus rien. Au chapitre 3 et verset 11, nous lisons « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par les œuvres, non, par les bontés, non, par, par son budget, non, par la foi. Le juste vivra, il sera sauvé, il va marcher dans sa vie de chrétien par la foi. » Aussi dans chapitre 3, versets 24, 25 et 26, nous lisons « Ainsi, la foi a été comme une... » Excusez-moi, je recommence. « Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » C'est-à-dire, la loi nous a instruit qu'on est pécheur. Étant pécheur, on demande pardon à Dieu. Étant pécheur, on vient pour être sauvé, pour être justifié. Mais sans argent, sans acte, seulement dans l'humilité d'un condamné. Et on réclame, Seigneur, pardonne-moi, etc. OK? La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, c'est-à-dire sous la loi. Car vous êtes tous fils de Dieu, donc enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. On n'est pas devenus enfants de Dieu parce qu'on est français ou américain ou allemand ou je ne sais pas quoi, juif. Non, on est devenus fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Chapitre 5 et verset 1 et verset 6, on va terminer avec ça. Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Là, c'est le joug de la servitude, c'était ces Juifs qui sont venus enseigner qu'il fallait croire en Jésus-Christ plus pratiquer la loi. Il y a plein de monde qui font ça. Hein? C'est pas... Disons, c'est pas nouveau, ça, déjà, à cette époque-là. Hein? Mais quand vous parlez avec n'importe qui n'est pas vraiment un enfant de Dieu, vous allez demander comment être sauvé, ils vont vous dire, eh ben, il faut croire et il faut faire. Il faut croire et il faut faire. Et il y en a beaucoup qui disent même pas croire, ils disent simplement, il faut faire. Hein? Il faut faire les cinq piliers, il faut être à l'église, il faut pas mettre du maquillage, je sais pas, il y a plein de choses qu'il faut faire, il faut pas faire pour être sauvé. D'après le monde. Hein, d'après le monde, d'après la tradition de chaque famille, chaque peuple. Eh bien non, Dieu ne veut pas qu'on se mette sous une joug quelconque, comme faisaient les Juifs, qu'il fallait être sauvé et être circoncis pour être un chrétien. Non. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et au verset 6, car... En Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement, uniquement, seulement la foi qui est agissant par l'amour. Donc Dieu, il veut qu'on soit les croyants. Et en tant que croyants, on doit être agissant, agissant par l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers nos prochaines, n'est-ce pas? Ça résume toute la Bible dans cette petite phrase-là. Okay?